says.
Mattina.
La francolatina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bonjour. Avec cette partie du brave Gustavo Santaolalla, nous commençons cette nouvelle émission, la première en français, de ce petit cycle d'émissions que nous sommes en train de faire en direct de la cave Poésie à Toulouse. Ce sera probablement l'une des deux émissions que nous ferons en langue locale, en langue française, car les autres émissions ont été faites toutes en langue espagnole. Nous sommes aujourd'hui avec deux femmes qui jouent des rôles différents dans cette sorte de super production qui est d'une certaine manière le festival Les Rencontres Cinéma d'Amérique Latine de Toulouse. L'une, elle a un rôle dans ce qu'on pourrait appeler le backstage, derrière non seulement la caméra mais même ailleurs, mais grâce à elle, grâce au travail qu'elle fait comme partie d'une grande équipe, il y a des choses qui se font et des choses qui peuvent continuer à se faire. Je vais parler là d'Eva Morsikin, qui est coordinatrice de la section cinéma en construction, qui est un élément très intéressant, très important, très essentiel de ces rencontres. Eva, bonjour et bienvenue, merci d'être là.
Bonjour.
Je sais que c'est justement aujourd'hui que l'activité commence très forte pour le cinéma en construction. C'était peut-être pas le meilleur jour à te demander de venir, donc je te remercie doublement d'être là. Nous avons une autre femme de cinéma, elle par contre réalisatrice. Elle est mexicaine et elle est avec nous parce qu'elle présente ici à Toulouse un film qui s'appelle « Vete más lejos, Alicia ». Alicia va plus loin, on pourrait traduire comme ça, Elisa ?
Oui, on pourrait traduire comme ça.
Bonjour en tout cas et bienvenue.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors, comment ça se passe ? Une première impression de Toulouse, les projections, les réactions du public ?
Ça se passe assez bien. On a eu la première projection hier soir et c'était assez bien passé. Et bon, je ne connaissais pas Toulouse et je trouve très très belle comme ville.
Donc, oui. un double plaisir.
Double.
Je me tourne vers Eva Morsikin parce qu'on va commencer à discuter avec toi vu qu'effectivement tu es vraiment très, très occupée et très pressée par cette manifestation que j'ai recueilli quelques statistiques qui dit que 97 de 101 projets que le cinéma en construction a sélectionnés ont abouti. Il faut dire que le cinéma en construction, c'est une sorte de fonds, des soutiens, plus qu'un fonds. C'est un ensemble d'aides qui sont données à des films que vous considérez qui valent la peine d'être aidés et qui ont des problèmes à un certain stade de la production.
En fait, pour répondre à ta question, Cinéma en construction, c'est un dispositif qui existe depuis 10 ans et qui s'est mis en place en fait suite à la demande de producteurs latino-américains, puisque c'est Mathias Moisterin qui était venu d'Argentine, qui accompagnait un long métrage fini qui devait être Mundo Grua et qui avait aussi avec lui une bêta de Bolivia en cours de montage puisqu'il ne trouvait pas d'argent pour finir le film. Le cinéma en construction, c'est pas tout à fait créé à ce moment-là, mais en fait, le dispositif en lui-même de montrer des films encore en chantier à un public de professionnels, c'est vraiment par rapport à une réalité économique et au niveau de la production en Amérique latine. Ça n'a pas été créé juste pour que ça existe et organiser une rencontre à Toulouse. Et effectivement, comme ça répond à un besoin précis, sur l'ensemble des films qui ont été sélectionnés, la plupart sont finis. Grosse majorité, dans la mesure aussi où même si sur le moment le film n'a peut-être pas de prix ou ne trouve peut-être pas forcément un coproducteur, maintenant le fait d'être sélectionné aussi à Cinéma en construction déclenche aussi un intérêt de la part des instituts de cinéma ou d'autres producteurs dans le pays même. Donc ça a un effet levier finalement sur l'ensemble de la chaîne. Et donc la sélection plus les partenaires qui dotent le prix plus la présence des professionnels font que, quoi qu'il arrive, ça déclenche un intérêt, ça a un effet sur la carrière du film.
C'est-à-dire que c'est que le cinéma en construction, le programme cinéma en construction ne peut pas donner directement. En général, les réalisateurs l'obtiennent avec, je dirais, le prestige
oui.
que le prix lui donne en plus.
Tout à fait.
Parce qu'effectivement, là, c'est assez impressionnant de voir que sur le 101 projet sélectionné, 97 ont abouti. Ça parle d'un bon regard, d'une bonne sélection. Qui est le jury qui sélectionne? Quel type d'équipe se penche sur le film?
C'est un comité de sélection conjoint. Il y a 4-5 personnes du Festival de Saint-Sébastien, 4-5 personnes du Festival de Toulouse qui sont tous impliqués d'une façon ou d'une autre dans la programmation. Donc on est entre 8 et 10 à voir les films à chaque session et on choisit de façon collective. Ça veut dire que pour Toulouse ou pour Saint-Sébastien, c'est un comité commun. C'est pas, il n'y a pas un comité Toulouse pour des films de Toulouse et un comité Saint-Sébastien pour les films de Saint-Sébastien. Donc on couvre, il y a des personnes vraiment très impliquées dans la programmation, des personnes qui sont plus dans les cours. Voilà, il y a des regards différents de différentes personnes systématiquement sur tous les projets.
Combien de films il y a cette année qui voudraient obtenir le label cinéma en construction?
On en sélectionne 6, donc
six
c'est très exclusif. Oui, 6 sur 92 films reçus, nous on en sélectionne 6 et après dans les 6, les professionnels qui sont présents, les vendeurs, les distributeurs, ils en choisissent un.
Le résultat est connu pendant la durée du festival?
Le prix?
Oui.
Oui, le prix est remis vendredi soir au cours d'un dîner et ensuite les résultats, on va dire, ils s'échelonnent sur la durée puisque après on va attendre la sélection de Cannes, voir s'il y a des films de cinéma en construction qui ont pu plaire aux sélectionneurs, même si on est... Bien sûr, la date limite d'inscription est passée, mais enfin, on a un partenariat, donc les films de cinéma en construction peuvent encore s'inscrire. Et parfois, c'est vrai qu'effectivement, le fait qu'il y ait un intérêt de la part des sélectionneurs de Cannes pour le film, il est évident que dans certains cas, ils arrivent à le finir aussi en 2 semaines. Parce que tout à coup, ben voilà, il y a l'Institut de cinéma qui a l'argent.
C'est enfin... un encouragement qui est très fort aussi.
Oui.
Là-dessus, effectivement, il y a qui ont été sélectionnés à Cannes parmi la sélection historique.
Oui.
Et 9 directeurs, réalisateurs
sélectionnés à la résidence
ont été primés avec la résidence
oui,
de Cannes.
Oui, parce que tous les ans, Georges Goldenstern vient depuis le début. Et Georges Goldenstern est le directeur de la Ciné Fondation, donc la résidence, l'atelier, la sélection. Et c'est vrai que depuis la création de la résidence en 2002, je crois, 2003, il y a déjà 9 réalisateurs, réalisatrices qui ont été sélectionnés après avoir présenté un film à Toulouse.
C'est une fierté un peu personnelle pour toi quand tu vois passer un film qui est passé par ici, que vous avez décidé d'aider, de le voir grandir comme on voit grandir un enfant qu'on a aidé à faire ses premiers pas.
C'est pas une fierté, disons, personnelle, non, parce qu'on est une grosse équipe avec une équipe de personnes bénévoles aussi qui s'impliquent bénévolement depuis 10 ans à organiser Cinéma en Construction, à soutenir le projet. Donc non, c'est vraiment le... Je suis contente de voir que, surtout qu'une initiative aussi modeste que la nôtre, qui est fondée aussi sur la coopération, enfin, c'est vraiment basé sur cette valeur-là depuis le début, la coopération entre deux festivals, puisque c'est le Festival de Toulouse et le Festival de Saint-Sébastien qui s'associent, et ça s'était quasiment... En 2000, jamais fait. Les festivals étaient plutôt à être
concurrence.
En concurrence qu'en coopération et synergie. Donc déjà, il y a cette coopération-là entre un festival de classe A qui fait partie de même famille que Cannes, Berlin, Venise et notre festival à Toulouse spécialisé dans les cinématographies d'Amérique latine. Donc il y a déjà cette coopération-là et la coopération ensuite avec on met en place entre les professionnels européens et les professionnels latino-américains, avec la dotation du prix, c'est les industries techniques qui font des apports en industrie pour finir le film. En Espagne, ils choisissent un film et ils le mènent à la copie 35 sous-titrée français. Donc c'est des prestations qui sont inabordables dans certains cas, ça peut se chiffrer en millions d'euros. Dans certains cas, de prestations au niveau de la post-production. Et ça, c'est fait sans retour sur investissement, entre guillemets, de la part des industries techniques, presque. Et c'est aussi le fait, voilà, de mettre des gens ensemble et de voir comment comment certaines personnes, il y a des gens qui, producteurs, qui commencent ou qui n'ont pas forcément des activités avec l'Amérique latine, qui arrivent et qui ont des coups de cœur et qui, bon, ils disent, bon, on va essayer de trouver de l'argent pour finir le film. Enfin, voilà.
Eva Morskin, juste avant de te libérer, je voudrais te remercier d'être venue.
Non, bah,
et
merci
je voulais
à toi.
Juste te dire qu'effectivement, comme dans la course qui la tienne ces jours-ci, tu n'as certainement pas eu le temps d'écouter les autres émissions et les autres réalisateurs. Te dire que très spontanément, tous déclarent que ce festival de Toulouse est un festival différent et que l'une des très marquants, c'est justement qu'on voit qu'il y a l'esprit du bénévolat, de la passion pour le cinéma, que c'est un festival en ce sens très unique. Donc, les efforts que vous faites, ils sont ressentis et ils sont appréciés par les autres. Je voulais te dire avant
content.
Que tu partes.
Merci.
Merci
de m'avoir invité.
Je t'en prie. Avec Eva Morskin, dont le programme auquel elle participe permet au film d'aller plus loin, nous allons, juste après une chanson, parler avec quelqu'un qui a créé un personnage auquel elle donne l'ordre d'aller plus loin, Vete Más Lejos Alicia. En attendant, à propos des constructions et à propos de musique de film, nous allons écouter un Brésilien qui s'appelle Chico Buarque, dans une chanson qui s'appelle Construção.
Amou aquela vez como se fosse última. Besou a sua mulher como se fosse última. E a cada hijo suyo qual se fosse el único. E atravessou la calle com su passo tímido. Subiu la construção como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Por el aire cual si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Como si fuese el último. Besó a su mujer. Como si fuese única. Y a cada hijo suyo. Como si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo por ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado.
terminó en el suelo como un punto tímido, agonizó en el medio del paseo, naufragó. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina.
Besó a su mujer como si fuese lógico.
Alzó en el balcón cuatro paredes plácidas.
Sentóse a descansar como si fuese un pájaro.
Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe.
Y terminó en el suelo
como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Dejarme respirar y por dejarme existir, Dios le pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser. Años de gente para subir y caer. Dios le pague por esa pía que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir,
por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Chico Buarque, la chanson s'appelle Construction, Construction. C'est une très belle chanson, et d'ailleurs ce n'est pas du tout Elisa Miller qui va me contredire, car on a parlé pendant que nous écoutions la chanson ensemble et elle l'aime beaucoup aussi. Je voudrais juste, avant de continuer, dire que nous avons aujourd'hui dans le public de la CAF Poésie un groupe d'amis qui ont été invités là par la Ligue de l'Enseignement et qui font partie d'une initiative, d'un programme qui s'appelle « À faire et à suivre ». Et nous voulions saluer leur présence avec nous dans ces boulevards franco-latino. Alors, Elisa Miller, il y a plein de questions que j'ai envie de vous poser après avoir vu le film qui s'appelle, je le rappelle pour nos auditeurs, Vete más lejos, Alicia. Et c'est un film où la nature, l'espace, est quelque chose de très particulier en plus, que la neige est très présente. Le personnage principal est très souvent en train de voir neiger, de regarder cette nature imposante qui est celle de l'extrême sud de l'Amérique du Sud. Et j'ai découvert en lisant de votre biographie que vous aviez gagné un prix à Cannes pour un film qui, lui, s'appelle quelque chose comme « Regarder pleuvoir » ou « Voir pleuvoir ».
Voir pleuvoir, ouais. Ver llover.
Ver llover.
Ouais.
Vous avez une sorte de passion particulière pour cette contemplation ou c'est juste une coïncidence ?
Bon, maintenant que vous me demandez, peut-être oui, il y a un amour pour la contemplation, je pense. Je pense toujours que ça fait partie de mon travail, passer de temps à contempler le petit chose, la nature, la lumière, ou la pluie. Bon, j'ai grandi dans une ville où il pleut 80% de l'année. Il pleut tout le temps,
laquelle?
À Cuernavaca, au Mexique. Ouais. Mm-hmm. Bon, j'exagère, il pleut pas si longtemps, mais pendant l'été, on a deux saisons. C'est saison de pluie et de pas pluie, c'est ça.
La seule différence, c'est qu'il pleut un peu moins dans la saison sèche.
Exact. Alors bon, dans ce court-métrage, j'ai tourné là-bas où j'ai grandi et c'était un peu un hommage à ça, à qu'on passe beaucoup de temps à regarder la pluie parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et dans les cas d'Alicia, comme j'ai grandi dans ce... Cuernavaca, ça s'appelle aussi l'Eterna Primavera, printemps éternel.
Éternel, oui. Ouais.
Et vous pouvez s'imaginer, alors le climat, il fait toujours beau. Et bien sûr que je n'avais jamais vu la neige, c'était une chose abstraite pour nous. Alors c'était une fille qui n'avait jamais vu la neige, c'était ça le principe du film.
Et donc il faut penser que vous avez inventé le film pour aller voir la neige, pour profiter d'aller voir la neige, comme le personnage de votre film qui quitte le Mexique. Elle est toute jeune en plus, elle a 19 ans, on sent qu'elle se cherche dans la vie.
Oui, l'idée de voir la neige ou voir une tempête de neige, c'était un peu métaphorique. C'était une fille qui au Mexique avait une vie très confortable, c'est pas que...
Elle fuit pas la misère.
Oui, elle fuit pas la misère. C'était aussi de se trouver toute seule de l'autre coin du monde. Et oui, l'idée de voir la neige, c'était un peu l'excuse. Mais bon, j'avais déjà vu la neige avant de tourner.
J'imagine. Alors, vous n'avez pas choisi n'importe quelle neige, parce que vous auriez pu monter vers les États-Unis, effectivement, et même dans des régions du Mexique où il y a plus de neige à certaines époques de l'année. Elles ne sont pas nombreuses, non ?
Seulement dans les volcans.
Les volcans, ouais. Mais pourquoi avoir choisi cette région de l'extrême sud qui, tout d'un coup, j'ai eu ce sentiment en regardant le film. On parle beaucoup aujourd'hui de la Patagonie, on parle beaucoup donc de ces territoires merveilleux à découvrir, et tout d'un coup, il devient un lieu autre, un lieu imposant, certes, mais souvent menaçant, souvent inquiétant. Et cette jeune fille qui a décidé d'aller voir là-bas si son destin y est, elle est tour à tour fascinée, écrasée. Hein, à un moment donné, elle est perdue, elle a peur, elle veut revenir chez elle. Pourquoi avoir choisi cette région si lointaine ?
Dans ce film, Lazare joue un rôle important. Moi, avec Sofia Espinosa, qui est la comédienne qui joue Alicia, elle joue aussi dans mes courts-métrages d'avant. Je l'ai rencontrée quand elle avait 14 ans. Et on a tourné Verde Obel, c'est le court-métrage, mon premier court-métrage.
Ensemble aussi.
On a tourné ensemble et puis on a fait un peu le tour du monde avec le film parce qu'on était invités partout avec ce court-métrage. Et quand on voyageait, on parlait beaucoup. Elle avait 17 ans quand on voyageait. Elle n'avait jamais quitté le Mexique quand on faisait des voyages. Mais elle avait envie de partir étudier ailleurs. Et moi, quand j'avais 19 ans, j'ai parti en fait en France. C'est pour ça que je parle français. Et j'ai quitté le Mexique pour faire mes études en France. C'était assez difficile parce que c'était la première fois que j'ai quitté la maison de mes parents et c'était aller dans un autre pays, une autre langue que je ne parlais pas très bien, etc. Alors on a devenu très amis, elle fait un peu ma petite sœur. Et quand elle m'a parlé de ses projets de partie, j'ai beaucoup parlé de mon expérience de quand j'avais 19 ans, j'avais quitté le Mexique, etc. Alors je lui dis que quand elle quittait le Mexique, elle voulait au premier moment aller à Londres. Alors je dis, bon, quand tu vas dans un autre pays, moi j'arrive avec une caméra et une fait un film. De cette période, quand tu as 19 ans, il faut choisir ton métier, tu es loin de ta famille et tout. Alors je lui avais dit, quand tu pars, on fait un film ensemble. Puis les années sont passées, elle n'était pas prise à l'école de théâtre à Londres, elle était prise en Argentine. Et alors, à un moment, j'étais en train de patienter pour avoir de l'argent pour un autre projet. Et la chef-op avec qui je travaille, elle est uruguaya. Alors, tous les deux étaient au sud. Et alors, je dis, allez, j'arrive avec une caméra et on fait un film là-bas. C'était un peu pour ça. Et puis, bon, j'avais très envie de voir le glacier. J'avais des rêves avec le
Perito Moreno.
El Perito Moreno. Ouais, j'avais cette image
Del
hielo, comme on dit.
La glace.
De la glace. J'avais cette image, j'avais absolument comme une obsession de le voir. Alors je dis, on va tourner à Buenos Aires et puis on descend jusqu'au sud pour voir le fin du monde ensemble et on fait un film de ça.
Justement, en écoutant votre récit de la naissance du film, pour ainsi dire, je me rends compte qu'on a le sentiment d'une caméra qui est très subjective, pas seulement dans le sens traditionnel technique où la caméra fait l'office de notre œil, mais que il y avait un rapport à ces paysages qui était un rapport pas seulement esthétique, pas seulement anecdotique, mais qui avait un rapport de vous tous à ces paysages qui était très fort, très vivant. La solitude, par exemple, c'est quelque chose qui est très, très, très frappant, qui est doublement frappant, sa solitude personnelle intérieure. Elle ne fréquente pas beaucoup de gens. En général, elle est seule à contempler les paysages. Comment ça s'est passé au niveau du tournage ?
Bon, il y avait, on avait une espèce de théorie que c'était le paysage émotionnel. Mmh. Alors, c'est pour ça qu'il y a tant de nature, tant de subjectivité, comme vous dites. Oui, la solitude, c'était notre essai de faire un portrait de la solitude, pas seulement de ce moment de la vie, mais de la solitude. Il y a un personnage qui même le dit littéralement dans le film. C'était un essai de faire des images émotionnelles, de poetical landscape, comme le
ouais.
comme
oui, oui, si le paysage, des paysages poétiques,
ouais, et des paysages, émotionnels, ouais.
Et paysages intérieurs.
Ouais, quoi, ouais. Et on parlait beaucoup de la sensation d'être perdu, d'être toute petite face à l'immensité de l'univers, de se sentir. C'était vraiment. Je pense que c'est un film d'essai plutôt.
On a froid en le regardant, et on a froid parce qu'il a froid. Il a froid dans sa vie un peu, et ça se multiplie avec ce qu'il y a autour, et c'est effectivement très impressionnant. Tout le monde a vu des milliers d'images de Perito Moreno, du fameux glacier Perito Moreno. Évidemment, souvent les images sont des images pour montrer sa beauté qui est grande, mais je ne l'avais jamais vu sous cet aspect tout aussi imposant, mais menaçant, inquiétant. Je ne voudrais pas être perdu là, je me disais. Qu'est-ce qu'animait cette fille pour oser aller toute seule être là, contempler?
Oui, bon, comme je vous disais, c'était un peu l'essai de faire des paysages émotionnels. Alors, le film n'était pas écrit en avance. On écrivait pendant le voyage. C'était très intéressant parce qu'au lieu d'écrire et de penser pendant 2 ans si ça va marcher ou pas, si tout le monde te dit son avis de ton scénario, etc., on allait et on faisait les choses qu'on avait en tête. Et c'était vraiment qu'on est en face du glaciaire. C'était de telle beauté. Parce que je voulais faire 2 côtés du glaciaire. Il y avait un côté imposant, mais en même temps, c'était comme la beauté, l'immensité de l'univers, d'une chose qui est si grand, qui est dehors de toi, et que alors ta petite angoisse d'adolescent ne peut pas dire en face à ce... En plus, je pense que la caméra, elle n'est pas capable de prendre cette beauté. C'était trop beau. Et quand on était là, en face du glaciaire, et on était tous les 4, on n'était que 4, le chef-op et les 2 acteurs et moi, on était face à cette beauté. Moi et la chef-op, on se dit, on ne pourra jamais mettre ça dans un cadre. C'est trop beau. Je ne sais pas, pour moi, c'était comme une espèce de révélation. C'était un peu voir Dieu. C'était trop, trop, trop beau. Et bon, je pense que ça n'est pas dans le film. Et c'était aussi, à la fin, la libération, parce que quand elle voit avec une autre optique le monde, quand elle est face à cette beauté, et cette, comme l'univers face à toi, et tu es toute petite, ça, c'était ça un peu l'idée du film. Et à la fin, elle est libérée de son...
Ouais. On va revenir juste vous dire qu'hier, à la même place, il y avait un autre réalisateur, lui colombien, Carlos Gaviria. Et dans son film, la nature aussi, elle est très imposante, tout à fait différente, parce que c'est les tropiques, etc. Et lui, il regrettait, d'une certaine manière aussi, de ne pas pouvoir faire passer les odeurs dans l'image. Il disait, j'aurais bien voulu faire sentir les odeurs qu'il y a dans les tropiques, mais je savais, comme vous, avec les glaciers, qu'on n'arriverait pas avec la caméra. Vous y êtes allé assez près quand même. On va écouter une nouvelle chanson, toujours de la musique de film. Cette fois-ci, c'est un film français. C'est un vieux film français et la chanson est interprétée par une grande, grande dame du cinéma français, Jeanne Moreau. C'est une chanson du film Jules et Jim de François Truffaut. Et la chanson s'appelle, comme quelque chose qui a souvent...
Les tourbillons de la vie.
Exactement. On y va.
J'adore.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant,
l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de ma vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Le tourbillon de la vie, Jeanne Moreau. Je suis très content. Et d'ailleurs, ça correspond à une phrase que vous avez dit à un moment de cette conversation. Le hasard fait bien les choses. C'était tout à fait un hasard que nous ayons pris cette chanson de Jeanne Moreau. Il y a une autre réalisatrice mexicaine ici, Yulene
Olaizola, oui.
Olaizola. Est-ce que ça indique une tendance dans le cinéma mexicain, davantage de femmes qui réalisent, surtout dans la nouvelle génération, ou vous êtes une exception?
Yulene et moi, on était ensemble à l'école cinéma, en fait. On est la même génération. Et oui, dans cette génération, il paraît qu'on est assez... je ne sais pas, les femmes, on va assez vite.
Oui.
Et on fait plein de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de faire des choses très, très intéressantes et très indépendantes. Et je ne sais pas, je suis très contente qu'on fasse nos films.
Et comment ça se passe dans le monde du cinéma mexicain? Est-ce que l'arrivée des femmes à la réalisation est quelque chose que les hommes accueillent bien ou est-ce qu'ils craignent un peu pour leur...
Non, je pense que dans mon cas, j'ai des amis très, très proches de réalisateurs hommes qui nous soutiennent beaucoup, que sont... Par exemple, il y a Fernando Emke, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, ce film. Lui, il est producteur de mon film d'Alicia. J'ai montré à lui parce qu'on est amis et il a bien aimé. Il m'a présenté son producteur. Et alors, c'est avec Cristian Valdelebre, son producteur, qui m'ont aidé à finir le film. Je pense que les hommes, les réalisateurs qui sont une génération en dessous de nous, ils sont très à l'aise de nous aider, je pense. Ils sont contents.
Je voudrais, juste avant qu'on finisse, qu'on revienne sur quelque chose que vous avez dit, parce que ça devient une constante dans plusieurs films. Ce sont des films dont les réalisateurs avaient une idée, un canevas, comme on dit en France. Et très souvent, l'écriture finale s'est faite sur place. Et d'ailleurs, il me semble que dans les génériques, ce n'est pas marqué acteur par ordre d'apparition, mais par ordre d'improvisation ou quelque chose comme ça.
Ah oui, il dit « cette film est improvisé par ».
Est improvisé ouais. par, voilà. Ouais. Est-ce que cet élément de l'improvisation devient pour vous essentiel pour pouvoir faire le type de cinéma que vous faites? Parce que ça a l'air de ne plus effrayer personne, de ne pas savoir à l'avance, jusqu'au dernier plan, jusqu'à la dernière phrase, etc. Et de se laisser un peu emporter par la vie du tournage.
Bon, dans le cas de ce film, c'était tout à fait improvisé. C'était ça qu'on cherchait. Et c'était vraiment l'improvisation. Et c'était les amis de la fille, c'était l'école de cirque où elle allait. Alors, il y avait plein de trucs. C'était de sa vie. Moi, je n'écrivais pas. Je seulement entendais comme elle parlait. Et je faisais les scènes avec elle. Mais c'était vraiment leur dialogue. C'était pas écrit, il n'y avait pas de dialogue écrit. Mais bon, cette film, c'était fait comme ça. Mais bon, pour mon prochain film, j'ai un scénario beaucoup plus écrit et très, très pensé. Je pense qu'il y a un truc dans le ton, qu'on trouve, qu'on travaille à l'improvisation et avec la naturalité, qu'on ne pourrait jamais arriver avec un scénario écrit, je pense. Pour moi, c'était on cherchait dans ces cas de sept films, on cherchait ces tons exactement, la naturalité. Mais bon, on va voir les prochains films, ça sera différent, je pense.
Elisa Miller, le film, il est sorti au Mexique?
Non, on était au Festival de Morelia, c'était là la première du film. Et maintenant, quand je rentre en mai, ça sera à la ville de Mexico, on aura une espèce de première. Mais on n'a pas encore de distributeur au Mexique.
D'accord. Je voudrais vous remercier beaucoup d'être venu. J'espère que, comme Alicia, le film va aller loin. Bonne fin de festival.
Merci et merci pour m'avoir invité.
Je vous en prie, merci. Et merci à vous tous d'être venus, à ceux qui sont venus jusqu'à la cave Poésie. Merci, comme d'habitude, évidemment, à Pierrot et Steve qui étaient dans le contrôle, sans le doigt magique duquel il n'y aurait pas cette émission chez vous. À la prochaine, nous continuons demain ici à la cave Poésie avec un autre boulevard franco-latino. Ciao!
Franco-latine.